Radio Classique, grand témoin.
Le professeur Alphonse Ntumbaluabaloumou, coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR ex-CONADER, est l'invité de grand témoin de ce jour. Nous lui disons merci d'être venu. Avec vous, professeur Ntumbaluabaloumou, nous ferons le point du programme de désarmement. Bien entendu, nous nous intéresserons aussi aux sujets qui font l'actualité dans ce domaine. Alphonse Ntumbaluaba, vous avez occupé plusieurs fonctions politiques dans le passé. Nous allons en relever quelques-unes. D'août 2000 à avril 2001, vous avez été vice-ministre. C'était dans quel ministère et en quoi consistait votre travail?
C'était songé, j'ai été vice-ministre de la justice et affaires parlementaires. Mon travail consistait à seconder le ministre de la justice, mais j'avais particulièrement la gestion des affaires parlementaires, les relations avec la CLPT, mais aussi le contentieux international, parce que le début de tout notre contentieux avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Burundi, je m'en suis occupé.
Et de avril 2001 à juin 2003, vous dirigez le ministère des droits humains. D'ailleurs, au mois de mai de la même année, vous organisez la Conférence nationale des droits de l'homme. Quel était l'apport de cette conférence par rapport aux droits de l'homme en RDC quand nous savons que beaucoup d'organismes, tant nationaux qu'internationaux, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme en cette matière?
Vous savez, ça a été un grand moment du tout premier gouvernement du président Joseph Kabila et de la vie nationale. Parce que je dois rappeler que ça a été la première fois, pratiquement, qu'il y a eu une rencontre nationale avec des délégués venant de toutes les provinces, y compris des provinces occupées du pays. Et ça a été toute une gymnastique de pouvoir les faire arriver à Kinshasa et les faire rentrer dans leur terroir d'origine. Alors, ce grand moment a permis la diffusion de la culture de droits de l'homme, surtout que ça avait été précédé par des conférences provinciales sur le droit de l'homme. Ça a permis de faire l'état de lieu, le diagnostic, et de faire des recommandations dans tout le secteur de la vie nationale pour l'amélioration des droits de l'homme. Et je pense que, en synergie avec les ONG de droits de l'homme, ça a été un grand départ et ça a été reconnu comme tel.
Mais est-ce qu'aujourd'hui le résultat de cette conférence sur terrain est quantifiable et palpable?
Oui, je pense, parce que lorsque les ONG de droits de l'homme, les représentants des institutions étatiques sont rentrés sur le terrain, et ils ont pu diffuser largement ces messages. Et à l'occasion de cette conférence nationale des droits de l'homme, on avait élaboré la charte congolaise des droits de l'homme et du peuple congolais. Et je dois vous dire qu'on retrouve les traces de cette charte congolaise, y compris dans la constitution actuelle.
Vous avez parlé de M. Laurent Désiré Kabila, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme?
Je n'ai eu l'occasion de travailler avec lui que pendant quelques 7 mois, parce que j'arrive au gouvernement en août 2000 et il est assassiné en janvier 2001. Mais je me rappelle de lui comme d'un grand patriote qui a toujours voulu nous enseigner, comme il disait lui-même, à nous organiser, à compter sur nos propres forces, mais aussi d'un homme de grande simplicité et de proximité. Bah, je me souviens la première fois que j'ai eu à le rencontrer, à échanger avec lui, c'était à Alger, une rencontre prévue pour 10 minutes, nous sommes restés 30-40 minutes, et il était d'un grand naturel, il nous faisait rire, et il partageait tout simplement, et on oubliait même qu'on était en présence d'un chef de l'État.
Vous avez également occupé le poste de président de la commission gouvernementale ad hoc, chargée de la répartition des postes de responsabilité entre le gouvernement et les entités. Quel était votre travail?
Oui, mais là, vous parlez d'une fonction que j'ai assumée pendant que j'étais secrétaire général du gouvernement, des transitions. Et mon travail, c'était plutôt de continuer, en quelque sorte, ce qui avait été fait à Sun City. Donc, le partage de responsabilités entre composantes et entités, au total 8, les composantes de l'époque et l'identité, vous les connaissez. Et dans divers secteurs de la vie nationale, la territoriale, les postes de la territoriale, les entreprises, les services de renseignement. Et ça a été un vaste chantier, surtout qu'il fallait les faire avec un grand esprit de dépassement et d'indépendance. En réalité, c'était des négociations, donc il fallait ne pas montrer une appartenance partisane, mais se situer au-dessus de tout le monde.
Rester
le plus neutre possible. Et ce n'était pas un exercice facile, mais les composantes et entités ont reconnu que j'ai pu l'assumer avec justice et équité.
Et en parlant de Ntumba Luaba, on ne saurait oublier le moment où vous avez été séquestré en Ituri. Racontez-nous un peu.
À Mandro, en Ituri.
Ouais.
C'était fin août, début septembre 2002. Moi, je trouve que ça, c'est tout à fait normal, mais pas facile à vivre parce que je rentrais de Bruxelles et de Paris, hôtel Méridien, je me retrouve à Kampala, hôtel Sheraton, aéroport de Bounia, et subitement, dans un petit village, Mandro, à 12 kilomètres de Bounia, avec comme seul lit un fauteuil avec comme fond une peau de vache, et ensuite pour se soulager un kikoso à l'extérieur.
Alors vous voyez, le décor était planté,
on est resté 4 jours sans se laver, s'essuyant seulement avec un petit mouchoir, mais je crois que c'est le prix à payer aussi pour le processus de pacification du pays. Et j'ai cru à cette cause, je crois toujours, et je ne regrette pas d'avoir vécu ce moment-là, ça faisait partie du processus.
Radio Capine, grand témoin.
Le professeur Ntumba Luaba Lumu, coordonnateur de l'ancienne Comader, aujourd'hui unité d'exécution du PNDDR, est l'invité de grand témoin. Alphonse Ntumba Luaba, nous avons passé en revue différentes fonctions que vous avez occupées. Vous avez récemment été porté à la tête de l'ancienne commission nationale de désarmement Comader. Une auditrice de Bounia a une question à ce sujet. On l'écoute.
Marguerite de Bounia, je vais poser une question à propos du programme Comader qui vient de prendre fin. Ce programme ayant pris fin, quel est le nombre, l'effectif qui a été arrêté pour ce programme? Et si ce chiffre n'a pas été atteint, quels vont devenir ces gens qui gardent encore les armes pour le problème sécuritaire de la population et surtout des mamans ituriennes qui, depuis l'avènement des guerres, souffrent tant?
Réaction Alphonse Ntumba Luaba.
Oui, je suis content que la première question vienne d'une maman ituriennes, comme elle le dit. Alors je salue Marguerite de Bounia. Bounia, où j'ai déjà été 3 fois depuis la prise de mes fonctions. C'est vous dire l'attachement que j'ai pour cette ville. Et d'aucuns se demandaient si j'allais pouvoir encore y rentrer. Bon, j'étais sur terrain et je sais que c'est une préoccupation. C'est vrai que on a déjà désarmé, démobilisé à peu près 80% des effectifs qui étaient prévus. Maintenant, nous entrons dans un stade de relance, une phase de parachèvement du DDR. Donc la maman peut se tranquilliser. Elle sait que pour le moment, c'est le DDR 3 en Ituri et que sur environ 4500 effectifs prévus des groupes de Mathieu, Goudjolo, Peter, Karim et Cobra Matata, hier on avait déjà 1164 qui ont été désarmés sans être dans le processus DDR, et le ministre de la Défense a repoussé jusqu'à la fin de ce mois le délai pour les désarmements. Donc nous allons continuer à les accompagner avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Nous allons entrer dans cette phase de parachèvement. Et nous allons faire en sorte que le désarmement puisse se passer même au niveau des communautés, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'armes qui sont en circulation au niveau des communautés. J'ai reçu même un appel d'un chef coutumier de l'Ituri, me disant qu'il fallait l'aider parce que dans sa communauté, dans son village, il y a encore beaucoup d'armes et nous le ferons.
Donc Marguerite peut avoir tous ses apaisements.
Oui, Marguerite peut avoir tous ses apaisements et qu'à l'occasion du passage à Bounia, je peux échanger avec elle de vive voix et je l'accueillerai volontiers pour recevoir également ses conseils.
Professeur Ntumbaloaba, certains auditeurs voudraient savoir quelle différence il y a entre les structures CONADER et UEPNDDR.
D'abord, je constate la difficulté quant à la prononciation. CONADER se prononce plus facilement que UEPNDDR.
Et j'avoue que je ne suis pas le seul.
Non, non, partout où je suis passé, ça a été le cas. Cela correspond à une exigence de rupture et de continuité en même temps. Rupture, c'est qu'on avait affaire à une commission, maintenant c'est à une unité d'exécution du programme. Une commission, ça suppose une grande structure avec un grand nombre de personnels.
Avec un grand budget.
Un grand budget, tandis qu'une unité d'exécution, cela correspond à une structure beaucoup plus souple, plus légère, plus simple, plus adaptable. Et c'est ça la rupture. Mais la continuité, c'est que l'UEPNDDR est appelé à parachever ce que la CONADER avait commencé dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous voulons nous diriger vers une réinsertion sociale plus durable et également vers une réinsertion communautaire.
Certaines personnes ont accusé la CONADER de dépenser de grandes sommes d'argent dans les frais de mission et de donner de gros salaires au personnel. Conséquence, certains programmes n'ont pas pu être réalisés. Qu'en dites-vous?
Bon, vous savez que à la CONADER, il y a un encadrement de tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire que les salaires ne sont pas fixés de façon arbitraire. Ce sont des salaires qui sont fixés en accord avec les bailleurs de fonds. De gros salaires, oui et non. Oui, par rapport à ce que touche le commun des Congolais. Non, dans la mesure où je vois les risques qui sont assumés par le personnel s'occupant du DDR. Quant à la gestion financière passée, je pense que la transformation de la CONADER en UEPNDDR correspond aussi à un désir de plus de bonne gouvernance dans la gestion des ressources.
En Ituri, les anciens leaders de groupes armés ont sollicité la prolongation du programme de désarmement du PNDDR. Ils ont formulé cette demande le jeudi 13 septembre dernier, date de la fermeture des points de désarmement. Selon ces ex-leaders, d'autres combattants qui n'ont pas encore déposé leurs armes auraient encore une chance de rejoindre la troisième phase du processus du PNDDR. En réponse à cette requête, le ministre de la Défense a prolongé l'opération d'enregistrement des candidats au programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion dans l'Ituri jusqu'à la fin du mois de septembre. Chikes Diemo l'a fait savoir dans une déclaration à la presse le 13 septembre dernier. On l'écoute.
Nous avons dit ces jours-là qu'à dater du 13 septembre de ce mois, le programme allait prendre sa phase exécutoire. Mais parce qu'on se rend compte qu'il y a des signaux assez positifs, certains d'entre vous n'ont pas pu rejoindre le lieu du désarmement. Au nom du gouvernement et de notre partenaire du PNUD, sommes-nous concertés pour vous donner encore cette chance et que vous qui avez été en retard pour des raisons peut-être indépendantes de vous-même, pour des raisons diverses, nous vous demandons sans délai de rejoindre le camp où vous devez être désarmé. On vous remettra un essai pour dire que vous avez désarmé et enfin rejoindre le vrai programme de la réconciliation entre vous-même, vos frères et sœurs de l'Ituri. Nous allons vous donner encore juste à la fin de ces mois. Et rassurez-vous, à la fin de ces mois de septembre, nous devons commencer à travailler.
Alphonse Ntumbaloaba, coordonnateur de l'UEP NDDR, nous avons l'impression que la date limite ne fait que reculer, jusqu'à quand?
Bon, vous avez raison de dire que la date limite ne fait que reculer, mais vous devez comprendre aussi que c'est un processus complexe et qu'il y a aussi des difficultés de communication et de circulation dans l'Ituri et qu'on voudrait atteindre le plus de combattants possible qui se trouvent disséminés à travers l'Ituri. Donc nous demandons aussi à Mathieu Goudjolo, Cobra Matata et Peter Karim de faire davantage un effort de sensibilisation en direction de leurs hommes et qu'un appui aussi nécessaire leur soit apporté. Je reconnais qu'ils ont parfois des difficultés en logistique, mais c'est la dernière date. C'est bien la dernière date,
la toute dernière.
Il faut se montrer patient. Comme le ministre l'a dit aussi, qu'il y a des signaux positifs. Eh bien, on les a captés, on se montre patient, mais c'est la toute dernière date.
Vous avez parlé de Cobra Matata, effectivement, qui est l'un des leaders du FRPI. Cobra Matata a demandé depuis un certain temps la promotion d'une vingtaine de ses hommes comme officiers.
Oui, c'est vrai que Cobra Matata, c'est un des problèmes qu'il soulève pour les hommes du FRPI. Il a transmis une liste d'une vingtaine de noms. Évidemment, on ne peut pas, en recevant la liste directement nommée, il y a une vérification qui est en train de se faire au niveau du ministère de la Défense, pour voir parmi ces hommes quels peuvent être les grades équivalents. Bon, il n'est pas dit que tout le monde sur la liste sera nécessairement nommé. On pourra y aller par étapes. On va voir d'abord qui sur la liste remplisse un certain nombre de critères. Et les nominations pourront alors intervenir. Mais là, il peut avoir des assurances et ça ne doit pas le bloquer par rapport au processus.
Pensez-vous que le principe « un homme, une arme » facilite le désarmement ?
Oui, ben c'est un principe universellement établi en ce qui concerne le DDR, hein, parce qu'on suppose que un homme devait avoir une arme pour se dire combattant. On est combattant lorsque on a une arme. Mais il est vrai qu'il y a quelques dérogations en ce qui concerne les armes lourdes. Hein. Là, ce sont les armes légères, mais les armes lourdes, on reconnaît que pour certaines armes, il faut deux ou trois hommes. Le principe, c'est là, un homme, une arme.
Parce que selon nos sources, jusque-là, il n'y a que 30% à peu près des miliciens qui ont rendu leurs armes. Hein. Mais il paraît que c'est à cause de ce principe que beaucoup ne peuvent pas se rendre.
Mais vous vous rendez compte que si on ouvrait le concept jusqu'à admettre des armes blanches, machettes, couteaux,
lanciers,
voilà, il suffira d'aller dans sa cuisine et de prendre et de venir se présenter. Ce sera ingérable.
Radio Capi. Grand témoin.
Il est coordonnateur de l'ancienne CONADER, aujourd'hui unité d'exécution du PNDDR. Le professeur Alphonse Ntumba Luaba Lumu est l'invité de Grand témoin. Alphonse Ntumba Luaba, après avoir fait le point du désarmement, nous allons une fois de plus parler de vous. Nous sommes curieux de connaître la formation académique que vous avez suivie.
Oh, moi, je suis un pur produit national, en ce sens que j'ai fait mes études à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, à l'époque université nationale du Zaïre campus de Kinshasa, où j'ai fait tout le parcours d'assistant, chef de travaux, professeur associé, aujourd'hui professeur ordinaire. Je ne suis allé à l'extérieur que pour ma thèse à l'université de Nancy. Bon, je vous ai dit que j'aime bien lire et écrire. Ça m'a donné l'occasion d'écrire beaucoup d'articles, un certain nombre d'ouvrages.
Et aujourd'hui, vous êtes professeur ordinaire?
Oui, je suis professeur ordinaire.
Dans quel domaine?
Droit international public, mais vous savez que j'aime bien aussi le droit constitutionnel et que j'ai écrit un ouvrage de droit constitutionnel général.
En octobre prochain, vous aurez 55 ans. Vous n'en donnez pas pourtant l'air, hein?
Oh, c'est ce qu'on me dit, Bon, que dire? D'abord, j'aime bien rire. Peut-être que vous l'avez constaté. Je n'aime pas passer une journée sans m'offrir un moment de rire. Je n'aime pas le stress, mais je le gère à ma façon parce que le stress dans ses charges...
Est permanent.
Oui, c'est pourquoi on parle des charges publiques. Et puis finalement, vous savez, le rire, c'est une gymnastique du visage. Hein. Et c'est peut-être ce qui m'a permis de garder ma jeunesse. Mais j'ai le cœur jeune aussi. C'est pourquoi je me sens toujours à l'aise avec tous les jeunes, quel que soit leur âge.
En tout cas, pour nos auditeurs qui nous suivent et qui aimeraient voir le professeur Ntumba Luaba, ils peuvent aller sur notre site où il y a sa photo et ils auront l'occasion de confirmer ce que je suis en train de dire. Vous êtes marié et père de 6 enfants. En dehors des heures de service, si ce n'est pas un secret, quel est votre passe-temps préféré?
Je suis souvent en famille. Je cause et je ris avec mon épouse, les enfants. Chez nous, à la maison, la parole est très libre, donc on discute, on s'interpelle et tout ça.
On applique les droits humains.
Voilà, on applique les droits humains. Bien que quelquefois, quand même, il faut trancher. Hein, oui. Et j'aime bien les documentaires à la télévision, lire des autobiographies et surtout écrire, hein.
Et par rapport à la culture congolaise, on reproche à certaines personnalités de négliger totalement l'apprentissage de la culture à leurs enfants.
Oui, je dois reconnaître que ça, c'est un déficit qu'on doit pouvoir combler à tous les niveaux. Nos enfants aussi sont, comme partout à travers le monde, pris par l'audiovisuel, c'est-à-dire... Que voulez-vous, ils sont tout le temps devant la télévision, en train de surfer, de naviguer sur le web, d'écouter la musique MP3 ou iPod. Alors bon, c'est ça aussi un peu le problème. Ils lisent pas beaucoup. Dans le temps, nous avons pu bénéficier de nos parents qui pouvaient nous raconter des contes
et même apprendre la langue maternelle
et apprendre la langue aussi, hein. Mais bon, sont les mes enfants sont des Kinois, hein. Donc ils connaissent bien les Lingala beaucoup plus que moi-même. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas la langue du terroir. Certains comprennent grâce à leur grand-mère, mais il y a un effort à faire à ce niveau-là. Et peut-être que au niveau des écoles, au niveau également des centres culturels, hein, et j'espère que les provinces vont aller dans ce sens pour réanimer même les cultures provinciales. Je me souviens que dans mon enfance à Lubumbashi, le dimanche par exemple, on avait à travers les rues déballer
des sortes de caravanes.
Oui, des caravanes, chanter, danser gratuitement. Et ça n'existait plus. Alors ça nous permettait de communier à toutes les cultures présentes dans la province. J'espère qu'on va faire revivre tout ça, un festival de la culture au niveau de chaque province, des prix de la culture, et ainsi de suite.
Vous venez de parler de la musique. Vous vous intéressez à une musique particulière?
Oh, j'aime beaucoup le folklore, hein, de pratiquement tous les pays du monde. Ben, je trouve que le folklore traduit toujours l'âme profonde d'un peuple. Et pour connaître un peuple, il faut passer d'abord par son folklore.
Et si il vous était demandé de nous proposer un titre, ce serait lequel?
Actuellement, j'aime bien une chanson, c'est pas du folklore, hein, mais une chanson de Nana Mouskouri où il chante la paix, où il dit qu'on puisse donner 1000 colombes pour les enfants du monde et que partout la paix s'instaure ou s'installe. Je suis très attaché à la paix, à cette image de colombe. Je suis plutôt colombe que faucon, hein, c'est peut-être ça. Hein.
Alors, l'équipe de production de Grand Témoin vous a proposé une chanson, c'est Ancien combattant de Zao.
Ah, ok.
Ma que le pas, parce que combattant, on est aussi. Ma que le pas, parce que combattant, on est aussi. Ma que le pas, parce que combattant, on est aussi. Ma que le pas, parce que combattant, on est aussi.
Tu n'as pas peur, moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Avec le coup de matraque, tout à coup, pas qu'à trois, le peuple, les militaires, les rois,
la reine en cadavre, tous les présidents cadavres, la ministre en cadavre, tous les membres cadavres, et moi-même cadavre. Marque le pas, parce que combattant, on a marque le pas, parce que combattant, on a. Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Qu'on viendra la guerre, tout le monde a famé haut. Qu'on viendra la guerre, tous nos enfants a famé haut. Le coq ne va plus coquer le bourrico. La poule ne va plus couler les œufs. Le footballeur ne va plus coûter les ballons. Tout le monde ne va plus coûter le ballon.
Professeur Alphonse Ntumbalwa Balumu,
oui.
Coordonnateur de l'UEPNDDR. Je vous ai vu sourire à un moment. Hein. Vous connaissez la chanson?
Oui, je connais bien la chanson et le chanteur Tao.
Et qu'est-ce que ce message vous inspire?
Je pense que c'est une chanson qu'on devrait mettre presque chaque jour parce qu'elle est riche d'enseignements. Elle nous dit que la guerre est une mauvaise chose. Finalement, il faut sauvegarder la vie. Parce que la guerre ne choisit pas. Et là, je pense qu'il a tout à fait raison. D'ailleurs, il a été lui-même victime de la guerre dans le Congo voisin. Il a dû se réfugier en brousse ou en forêt, où il a perdu un de ses enfants. Et ça m'avait également touché. Alors il faut vraiment, c'est un message profond pour la paix. Et comme moi-même, à travers le PNDDR, je suis appelé à contribuer à l'instauration, à la consolidation de la paix. C'est un message qui me va tout droit au cœur. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir une bonne armée pour nous faire respecter. Hein, nous faire respecter.
Dit-on qui veut la paix prépare la guerre. Hein.
Non, je ne dirais pas, bon, c'est vrai, c'est un adage latin qui veut la paix, prépare la guerre, mais je voudrais dire qui veut la paix se consolide. Se consolide.
Merci, professeur, continuons à suivre la chanson. Merci à Nadine Foula et à Héritier Sidiakala de nous avoir proposé cette chanson. Professeur Ntumbalwa, nous allons clôturer cette émission. Mais dans votre parcours professionnel, en 2005, vous organisez la première cérémonie de rentrée judiciaire à Kisangani. Quelle en était la particularité?
Ah, la particularité, vous savez, je crois que c'est l'unique fois où, à l'intérieur du pays, on a pu organiser une cérémonie, quelle qu'elle soit, réunissant le 1+4, le chef de l'État et les quatre vice-présidents. Il a fallu gérer la présence de tous les cinq dans la ville de Kisangani. Lorsque j'ai dit gérer, sans aller trop loin, je dirais que j'ai dû gérer même ce que eux ne voyaient pas en étant dans la cérémonie, notamment la coexistence entre les gardes-corps.
Les gardes-corps.
Il m'est arrivé de m'interposer entre les gardes-corps,
les pires,
les tels, pour éviter les pires. Et il fallait aussi éduquer la population, la sensibiliser surtout, cette population de Kisangani que j'aime bien et que je remercie, parce qu'elle avait su accueillir 1+4 à ce moment-là. Et nous avons fait venir des magistrats de toute la République à Kisangani. Il a fallu gérer aussi tous ces magistrats dans le moindre problème, y compris de santé. Et c'est la première rentrée judiciaire qui s'est déroulée en dehors de Kinshasa. C'est dont je suis fier.
Professeur Ntumbalwa, accepteriez-vous une autre invitation dans une année ou deux ans pour faire le point du désarmement?
Oh, volontiers. Pourquoi pas dans un an, je reviendrai volontiers.
Merci beaucoup. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions le professeur Alphonse Ntumbalwa Balumu, coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR, ex-CONADER, réalisé par Nadine Foula et mise en onde par Héritier Sidiakala. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiocapi.net, site sur lequel vous pourrez aussi voir les photos de nos invités. Au revoir.